chance qu'on s'aime. Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on s'aime. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
Et moi-même, je m'appelle Pierre-Luc Houd. Chers auditeurs, on doit s'excuser. L'épisode que vous allez entendre va vous coûter 40$. Parce que si vous êtes comme moi, vous allez courir à la librairie pour acheter le livre dont on va parler pendant l'épisode avec Marité. Toi, PA, tu l'as déjà acheté.
Ouais, ça m'a peut-être pris un peu de temps versus la date de sortie. Écoute, j'ai attendu le fameux 12 août, j'achète un livre québécois. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de date précise pour acheter un livre québécois, là. Puis on doit se le dire, au Québec, on est chanceux, on a plein d'auteurs et d'autrices qui contribuent au partage de connaissances sur le jardinage et sur l'agriculture au sens large. Puis Marie Tévar, ce qu'elle a rédigé, ça va tellement dans ce sens-là, le Jardin Vivrier. Là. Je te laisse parler du reste du titre, Pierre-Luc, je sais que ça t'a inspiré, mais c'est un livre là, à avoir, c'est un must là, dans votre bibliothèque. Là.
Absolument. Puis je rajouterais ce que tu disais, que la maison d'édition qui publie ce livre-là aussi est vraiment très cool. Éco-Société, ils font vraiment... leur collection est vraiment très, très cool.
Tout à fait. Puis on a d'autres auteurs qu'on a interviewés cette année à la saison 2 qui font partie de cette boîte-là. Là. Tout le monde connaît Jean-Martin Fortier, mais Véronique Bouchard aussi qui est venue nous voir. Ben écoute, c'est toute cette boîte-là. Là. C'est cool.
Aussi, exceptionnellement pour cet épisode, on a deux invités. Alors, c'est deux voix féminines que vous allez entendre. L'une étant Marie-Thérèse Tévar, communément appelée pour les intimes Marité, et Marie, sa fille, Marie Tévar, qui est l'auteur du livre dont on va parler. Et vous allez facilement les reconnaître là, à leur accent, qui sont très différents, même si ce sont mère et fille.
Puis, dernière nouvelle difficile à avaler là, pour cette introduction, et pour toi, PA, il va falloir que tu t'en rachètes un, parce que PA, il m'a prêté son livre, puis là, je suis dedans là, à temps plein depuis, j'adore ça. Vous allez avoir là, quelques extraits du livre là, dans les propos de Marité et de sa fille Marie. Mais on n'en dit pas plus, on va tout de suite passer au commanditaire.
Attends, là, t'es après dire que je reverrai plus mon livre, là? Tu me l'as volé, là?
On va passer tout de suite au commanditaire. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on s'aime. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je suis trop lâche pour désherber. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de ne pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermierdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. Là. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille. De Montréal à Moncton, en passant par le Lac-Saint-Jean et Ottawa, tu vas pouvoir manger une salade de concombre anglais avec des échalotes françaises.
Ah, c'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un SAQ de 332.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 332, c'est aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool.
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
D'origine française, ouais, mais ça fait quand même plusieurs années que je suis là. Je suis arrivée à l'automne 88.
J'étais même pas née.
Bon.
Non, ça, c'est
pas vrai, ça. T'es tombée en amour avec le Québec ou avec un Québécois?
Avec un Québécois.
Voilà.
Puis avec le projet aussi, parce qu'on avait ce projet-là d'avoir un mode de vie pour produire nos biens essentiels. Donc, on avait tous les deux découvert Gandhi de manière différente. Et puis, c'est ça. Le Gandhi, c'est produire ses biens essentiels, nourriture, vêtements, logement.
Mais c'est un acronyme, ça, Gandhi?
Gandhi, l'homme Gandhi de l'Inde.
OK. Puis lui, je le voyais comme un militant pacifiste, mais c'était aussi un mode de vie qui...
Oui, mais ça faisait partie de son militantiste. Pour être indépendant des Anglais, ben revenir avec produire ses biens essentiels au niveau des villages et puis
de l'agriculture eux-mêmes.
Par les Indiens eux-mêmes, ouais. C'est pour ça que le tissu a été une grande chose qu'il a faite là pour devenir indépendant là. Il filait le coton parce que les Indiens, eux, les Anglais, ils faisaient travailler les Indiens qui ramassaient le coton. Eux, ils l'envoyaient en Angleterre. Là, en Angleterre, il était filé, tissé, tout ça dans des usines. Puis après, ben, ils ramenaient le coton sous forme de vêtements occidentaux qu'ils vendaient en Inde. Hein. Donc, Gandhi, il a lutté contre ça. Donc, les Gandhiens, ils filaient tous les matins. Ils avaient repris les rouées. Ils filaient leur coton. Puis ils faisaient un tissu qui s'appelait le khadi, qui était un tissu filé et tissé à la main. Et puis, ils portaient ça avec des vêtements traditionnels indiens qui étaient bien plus adaptés à la chaleur de l'Inde et puis tout ça.
Alors, quand tu es arrivé au Québec, est-ce que de l'Inde, des Indiens de l'Inde aux Indiens d'Amérique, as-tu eu des inspirations ou as-tu été en contact avec les Autochtones d'Amérique pour en savoir davantage ou as-tu appris des choses là, de leur culture à eux autres pour faire pousser des trucs?
Ben un peu, mais pas beaucoup indirectement, mais de plus en plus, on en découvre de plus en plus maintenant là. On a une voisine qui est passionnée de ça, elle a un peu des origines et puis on en découvre de plus en plus aussi avec la littérature, avec tout ça. C'est ça, c'est plus facile aussi maintenant avec Internet et puis à ce moment-là, en 90, on n'était pas trop courant, mais il y avait quand même des choses, on le savait déjà, ils mangeaient du maïs. Puis
Si on reprend les enseignements de Gandhi qui vous ont inspiré avec ton conjoint de l'époque, dans le fond, le jardin ou de faire un jardin, c'est une façon de se dissocier finalement des grandes chaînes qui, eux, veulent nous nourrir et nous vendre des produits qu'ils ont exportés, transformés et rapportés finalement dans ces épiceries-là et du modèle capitaliste à quelque part aussi. Est-ce que ça tient la route, mon exemple?
C'est exactement ça. Non? C'était pour ça, mais c'était aussi une question, aussi la question santé aussi, okay, qui m'importait. C'est ça. Moi, j'avais lu un livre aussi... avant de découvrir Gandhi, je pense, ou en tout cas dans les mêmes temps. Ça s'appelait Vivre sain, et puis lui il prenait le végétarisme, et puis mais aussi l'importance du bio, et puis l'importance des produits frais. Donc ça c'était plus au côté santé. Puis ben avec Gandhi ça alliait les deux, ça se rejoignait les deux là. Mais Gandhi c'était aussi côté santé qui faisait ça là. Donc, parce que t'as des produits frais tout le temps, puis bon. Moi, j'étais de... Mes parents étaient agriculteurs, là. Je viens d'une famille de jardiniers, d'agriculteurs. Tout le monde dans mon coin jardinait ou cultivait. Donc, pour moi, ben, je me suis dit, ben, je vais les produire. J'ai pas besoin de chercher une ferme à côté de chez moi pour avoir des produits frais, je vais les faire.
Moi, une photo qui m'a marqué dans le livre que Marie, ta fille, a écrit, c'est celle où on voit tes parents écosser les petits pois sur la table de la cuisine. Puis, ayant de jeunes enfants, j'ai comme hâte au moment de ma vie où je vais avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire cette activité-là. Peut-être moi-même avec ma conjointe, puis qu'on soit un peu plus paisible. Mais j'en ai cossé toute la semaine à donner à ma fille qui elle, savoure ça. Il n'y a rien qui bat ça, là, finalement. Là. Fait que c'est des images marquantes. C'est beau, ça fait voyager, ce livre-là. C'est magnifique. Là.
Là, ça, c'est un classique, PA. Là. Tu dis un jour, je vais avoir du temps, mais ça n'arrivera pas. Il va falloir que tu le fasses, le temps. Là. Est-ce qu'on peut avoir ce mode de vie-là, puis avoir une carrière 40 heures semaine sur le side?
Tu peux, là, mais c'est sûr qu'il va falloir faire des choix, là. Tu pourras peut-être avoir un jardin peut-être un peu moins grand ou. Ben, si t'es en couple, peut-être il y a une des deux personnes qui va plus rester à la maison ou alors un mi-temps chacun ou tu sais, c'est à chacun de s'adapter en fonction de la carrière de chacun puis de jusqu'où ils veulent aller les personnes dans l'autosuffisance et puis dans le mode de vie là. C'est ça aussi, non?
Moi, en feuilletant ton livre, Marie, j'avais le même feeling que quand j'achète un billet de loterie, là, j'étais tout enthousiaste à m'imaginer dans ce mode de vie-là. Puis ça me confronte un peu parce que réaliser, c'est, admettons que je suis ce livre-là à la lettre puis que je le fais là complètement, ben c'est un mode de vie qui prend une grande partie de la vie. Il y a du rêve là-dedans, c'est pas évident de rendre ça à la réalité.
Non, c'est vraiment pas évident là. Ça, faut qu'on le concède. Tu sais, on va pas faire mettre des lunettes roses là. Ça a l'air bien bucolique puis tout le monde aime ça, les belles images de petites cabanes dans le bois, mais tu sais, la réalité c'est que c'est moins confortable. Mais on y trouve un autre genre de confort qu'on a sacrifié finalement au profit de notre confort matériel, si on veut. Puis quand on y a goûté, tu sais, moi j'ai grandi là-dedans, dans le projet d'autosuffisance dans le bois, tu sais. Puis pour moi, c'est inconcevable d'habiter en ville, c'est juste impossible, tu sais. J'ai une maison parce qu'il fait froid l'hiver, mais plus je suis dehors, mieux c'est pour ma santé, puis pour comment je me sens de manière globale. Fait que, tu sais, faire un jardin, ça prend du temps, c'est difficile, c'est exigeant parce que faut suivre les saisons. Puis quand c'est le jour de semer, ben si tu sèmes pas, tu vas juste rien récolter, tu sais. Mais c'est nourrissant, je dis ça souvent, c'est nourrissant de plusieurs manières, si on veut, tu sais. Comme la connexion avec ton écosystème, là, c'est sûr que ça dépend de la grandeur du jardin. Nous, ici, on est un peu dans le bois, puis, tu sais, on se sent vraiment intégré à un écosystème qu'on a un peu créé, nous, mais qui, tu sais, qui est aussi... on essaye de aussi garder l'écosystème un peu sauvage. Puis, ce sentiment de connexion-là, genre, ça, tu peux pas l'acheter, tu sais. De juste voir des bibittes à l'infini, genre... À chaque jour, tu vois une nouvelle bibitte, tu sais, tu penses que tu connaissais, tu sais, on connaît les mouches, les guêpes, les araignées, je sais pas quoi, mais là tu découvres une autre affaire, c'est quoi ça, tu sais. Puis là, tu prends conscience de l'infini de la vie, de, tu sais, etc. C'est juste de voir une graine qui germe, tu sais. Ça a l'air vraiment banal, mais à chaque fois que tu sèmes une graine, tu dis, vas-tu germer, tu sais. Puis là, elle germe, puis là, t'es tellement content, elle a germé, mais tu sais, t'en as semé, je sais pas combien des graines, mais à chaque fois, t'es vraiment content, tu sais. Fait que c'est exigeant, mais c'est nourrissant quand même de beaucoup de choses.
C'est un peu la raison pour laquelle on voulait vous inviter. C'était pour nourrir peut-être des fois l'imaginaire des gens qui feront pas le saut de lâcher leur job de 8 à 5 sur la rive sud, la rive nord de grandes villes pour s'en aller à la campagne. Si tout le monde fait ça demain matin, on a un problème. Là, de toute façon, là, les campagnes seront pas assez grandes pour accueillir tous et chacun. Mais l'idée, je pense, c'est de jardiner, qu'on soit en ville ou à votre niveau, qui là est beaucoup plus grand, ou de tendre vers un certain niveau de jardinage ou d'autosuffisance. C'est ce que notre ami Danny Bouchard de l'Académie potagère mentionne souvent. C'est ce que je veux dire aux gens, c'est de pas voir ça comme un objectif à atteindre de façon absolue, mais même si c'est 0.1 ou 10% de ce qu'on mange qui provient de chez nous, ben je pense qu'il faut en être fier là, finalement.
Ben oui.
On a reçu aussi cette saison-ci Robin Leblanc. J'imagine, Marie, tu connais parce que tu es dans la musique trad. Là.
Ben oui.
Lui, il l'a fait pendant 2 ans, mais là, je comprends bien, Marie-Thérèse, elle le fait depuis 30-quelques années, ce mode de vie-là. Là. On est ailleurs.
Oui, c'est ça. Nous, on est arrivés là avec ça. Les premières années ont été difficiles parce que c'était des conditions de vie difficiles dans un vieux chalet puis tout ça, mais maintenant, on a... L'habitat faisait partie des biens essentiels, donc on s'est construit une maison en ballot de paille, bien isolée, foyer de masse. est très confortable. Donc, c'est ça. Ça faisait partie de la recherche aussi, là. Mon ex-conjoint voulait venir voir au Québec comment c'était possible d'avoir ce mode de vie-là au Québec sans manger des patates gelées en hiver ou se lever puis qui fait 7-8 dans la maison le matin en hiver. Là, c'est...
Si ma mémoire est bonne, dans le livre, on parle d'une trentaine de cordes de bois là, qui devaient être brûlées chaque année.
Oui, dans le vieux chalet, oui. Maintenant, c'est plus ça, là, mais on a brûlé, oui.
Alors maintenant, après plusieurs années, la nordicité, la rusticité là, de où est-ce que vous êtes installé, je pense que c'est à Lens-Saint-Jean, c'est ça que vous êtes installé?
À la baie,
OK. Donc, en France, vous venez de où exactement?
Du Loiret.
OK. Donc,
la région centre.
Donc, plus facile d'être autosuffisant dans un écosystème comme ça.
Oui.
Alors maintenant, avec les années d'expérience, est-ce que c'est beaucoup plus difficile à la baie ou bien qu'une fois qu'on sait comment faire, c'est tout à fait faisable?
Ben, c'est vraiment différent, là. Quand tu jardines, ben, quand tu plantes tes affaires, tu sèmes, tu plantes, il faut que tu penses que va falloir que tu passes l'hiver tout le temps, tu sais. Puis la manière que les légumes vont passer l'hiver, donc quels légumes je vais planter ou semer pour que ce soit un légume qui va passer l'hiver. Parce que les légumes d'été, c'est pas si long, là, les légumes d'été, ce qu'on mange, là. C'est vraiment la saison hiver, automne, hiver, printemps, là, qui est la plus longue, là. Donc c'est vraiment la principale culture là pour le jardin, c'est planifier ça un peu toutes les légumes qu'on va garder l'hiver.
Je suis content que tu le mentionnes. Dans le livre que Marie, ta fille, a écrit, j'avais jamais vu un livre dont la table des matières est décomposée en mois de l'année. C'est la première fois que je voyais ça. Donc, on sentait la planification qui était là. Puis au travers de chacun de ces chapitres ou de ces mois-là, il y a toujours une recette de cuisine aussi qui accompagne. En tout cas, j'ai trouvé que c'est un ouvrage fabuleux qui est très, très, très complet. On parle autant d'agriculture, d'agronomie, de jardinage, d'enjeux environnementaux que de recettes de cuisine, de planification. C'est fameux, là, finalement. Là. Moi, ça m'a impressionné beaucoup. Là. Marie, toi, t'as grandi là-dedans depuis toujours?
Oui, ben mes parents y avaient acheté la terre qui est, en tout cas c'est plus la terre d'aujourd'hui là. Aujourd'hui on a juste un terrain résidentiel, le reste de la terre a été découpé puis vendu. Mais ils l'ont acheté en 90, donc moi je suis née en 90 en plein dans le début du projet là. Donc on a fait moi je suis l'aînée de 4 enfants puis on a fait de l'école à la maison pour le primaire. Donc chaque été on avait chaque enfant avait sa petite parcelle de jardin puis il fallait que qu'on s'en occupe, tu sais, qu'on choisisse qu'est-ce qu'on voulait cultiver dedans, puis fait que on a grandi avec le jardin puis dehors aussi en faisant l'école à la maison là, avec le plein air puis les animaux de la nature, tout ce qu'on veut. Et de la ferme, tout ça, ouais.
Tantôt, tu parlais de découvrir des nouvelles bébites à toutes les années, presque à tous les jours. Mais toi, quand tu étais à l'Université Laval pour faire ton génie agro-environnemental, tu devais être une bébite pour eux autres aussi. Ils devaient découvrir une sacrée bébite.
Je sais pas qui était bébite pour l'autre, là.
C'est ça.
Moi, je leur parlais pas trop de bio parce que il y avait pas beaucoup de conversations sur le sujet d'un couloir de génie, mettons, mais ouais.
Est-ce que ça venait heurter tes convictions, ce que t'apprenais? Tu devais des fois avoir envie de t'objecter à ce qu'on t'enseignait?
Bah, j'étais déjà consciente de tout ça, tu sais. Envie de m'objecter, ben, toujours, mais je suis comme dans une autre philosophie que de construire par la positive, tu sais, c'est comme ben eux ils font ça comme ça, moi je vais faire ça différemment, puis qui même me suit dans un sens là, tu sais, j'ai décidé de pas travailler là-dedans parce que c'était pas mes valeurs, c'était pas ce à quoi mon énergie m'appelait à m'investir dans la société, tu sais, on allait visiter des poulaillers industriels là, c'est comme c'est 40 000 poules dans une bâtisse, c'est 6-7 âges de poules empilées un par-dessus l'autre là dans des cages, puis c'est tout, l'ambiance est programmée automatiquement là. Les poules, ils voient pas de leur vie la lumière du jour, puis il y a 3 bâtiments un à côté de l'autre, puis tu rentres là-dedans avec un soute d'astronaute zippé genre comme pire que le COVID là. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, c'était pas... c'était pas ce genre d'agriculture-là qui m'avait donné envie de la paysannerie et de l'agriculture, mettons.
T'sais. Mais pourquoi t'as fait ce bac-là, d'abord?
Ben, j'ai été un peu... pas trompée, là, mais... attirée par le titre, là, tu sais. C'était comme génie agro-environnemental. Puis moi, j'ai toujours beaucoup aimé les sciences. Puis je trouvais que c'était comme tout ce qui m'intéressait, le génie, l'agriculture, l'environnement. Puis je le regrette aucunement, là. J'ai été vraiment contente de faire tous les cours de sciences que j'avais envie d'avoir une base scientifique, de comprendre des affaires que je vais jamais me servir de ma vie, là. Mécanique des fluides, on fait pas ça dans un poulailler que paysan, là, tu sais. Mais de savoir comment ça marche, moi, je trouve ça super... enrichissant, puis vraiment, tu vois la vie différemment, là, quand on comprend un peu le fonctionnement des choses. Puis puis l'agriculture industrielle, elle existe. C'est ça qui nourrit la planète en ce moment, tu sais. On en pense ce qu'on veut, mais ça reste qu'on soit d'accord ou pas, tu sais, faut quand même la connaître, à mon avis. Fait que ça, je suis quand même contente de l'avoir appris, puis de savoir à quoi on a affaire aussi. Puis, tu sais, on entend aussi beaucoup parler en ce moment du véganisme, puis les mouvements anti-élevage des animaux, tout ça. Mais, tu sais, il y a une réalité aussi que qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Ben, il faut le connaître aussi. Puis, fait que c'est ça. Puis, c'est ça. Là où ça a le plus bugué, c'est au niveau environnemental. C'est sûr que j'avais pas du tout la même conception de l'environnement que mon programme à l'époque, mais je pense que ça évolue quand même, là. Je pense que les nouvelles cohortes sont un peu mieux outillées, peut-être, ouais. Mais là, quand je l'ai faite, moi j'ai fini en 2017, là, ça fait même pas si longtemps, puis ouais, je trouvais que c'était loin un peu, là, par rapport même à d'autres universités que j'avais entendu parler en Europe ou quoi, là. Ouais. Mais tu sais, je veux pas parler contre l'Université Laval, là. Je recommande à tout le monde d'aller faire ce programme-là.
Tu vois, moi j'ai terminé en 2008 mon cours d'agronomie. Je suis certain qu'il y a quand même une évolution dans ces 10 années-là qui s'est fait sentir. En tout cas, du moins, si j'y retournais, peut-être je la sentirais. On a reçu aussi cette année Ghislain Jutras, là, que tu dois connaître
ben ouais.
Autant par la musique que par sa passion de l'agriculture puis de l'enseignement. Puis bon, il nous expliquait d'ailleurs dans cet épisode-là à quel point les gens s'inscrivent à son cours d'agriculture écologique, qui, moi, je prétends, devrait être obligatoire et non optionnel, juste pour que, dans l'autre côté, ben, que les gens, finalement, s'imprègnent de ça aussi. Mais comme tu le dis, je pense d'avoir une culture générale agricole au sens large, ça va toujours être gagnant parce qu'on ne peut pas l'ignorer si on veut changer les choses. Il faut quand même assez de comprendre, assez de connaître, puis après ça, ben un pas à la fois. Mais tu l'as expliqué, mais moi, ça m'a surpris quand même de voir le choix du cours que tu as fait. Pourquoi pas faire juste agronomie, devenir agronome et non ingénieur agronome? C'est parce que tu aimais trop les maths, la physique et compagnie ou...
Ouais, je me pose encore la question, là, j'ai pas de réponse. Parce que, en fait, réalistement, ben, pas réalistement, mais je veux dire, dans la vie concrète, je fais pas des maths, là, par moi-même. Tu sais, je m'intéresse vraiment plus à l'agronomie. Mais je me sentais plus solide d'aller faire des cours de sciences. Je trouve que ça comblait plus mes lacunes, finalement, d'apprendre l'esprit rationnel, d'apprendre à travailler. Puis je me disais que les connaissances d'agronomie, c'est plus facile d'aller chercher ça par soi-même que les procédures mathématiques, si on veut.
Tu vois, t'es en train de dire, PA, que toi, ton choix d'études, c'était trop facile pour elle. Toi, ça t'a pris...
Ouais, non, je l'ai évoqué souvent, mais moi, j'avais pas les notes pour. Faut dire que mon cégep en sciences a passé comme dans un nuage. Et que,
moi, j'avais pas mon cégep en sciences non plus. Là. J'ai fait des cours de rattrapage pour rentrer là.
Ouais, ben c'est ça. J'ai pas eu le même cégep que ma sœur. Elle a fini médecin. Alors moi, j'ai fini agronome. Mais c'est un choix que j'ai jamais regretté finalement là. Fait que puis je viens de la ville. Toi, tu viens de la comment dire, de la vraie campagne paysanne là. C'est ça. C'était, j'en ai pas vu beaucoup là des collègues d'études qui avaient ce background là ou cette expérience de vie là au travers de mes études là. Mm. Même au travers des élèves à qui j'enseigne désormais au cégep de Victo là. Ça, ce parcours là, je pense que c'est assez atypique là.
Ben ouais.
Est-ce que ta mère t'a offert là comme vie là, comme jeunesse?
On est une génération comme ça, tu sais. Mes parents sont pas baby-boomers, mais sont comme juste après, là, tout juste après. Mais tu sais, toute la génération des baby-boomers, ils ont déserté les campagnes, là. Fait que, tu sais, on est toute une génération comme ça qui a grandi en ville, puis qui essaye de se réapproprier la vie rurale. Mais...
Une génération qui cuisine plus ou quand elle cuisine des aliments de l'épicerie. Mais chez vous, là, ça doit cuisiner un moyen temps. Là.
Ben, ouais.
Dans le livre, ça, faut que je l'essaie. Je sais pas, toi, Pierre-Luc, si t'as déjà essayé d'en faire. Là. Ta blonde, sûrement. Mais...
Non, moi, j'essaye encore d'en manger.
Non!
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais jamais j'oserais me partir une planche de soya dans le but de faire un bloc avec ça.
C'est vraiment pas si dur. Ça pousse bien, le soya.
Ouais. Ben, apparemment, oui, parce qu'il y en a partout autour de chez nous.
Puis, même en zone 3A, 3B que vous êtes?
3B, on est 3B, là.
OK.
Ouais.
Bientôt 4, avec les changements climatiques.
Ouais, c'est ça.
Ouais, malheureusement.
On s'essaye des fois, là.
Ah ouais, OK. Mais avec l'expérience, on doit faire moins de folie, j'imagine.
Plus!
Ben ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet qu'on a abordé à quelques reprises dans la présente saison d'une chose qu'on sème. C'est la dualité entre l'instinct et la connaissance. Bien sûr, quand on parlait à Danny Bouchard, lui, il focussait sur la connaissance, puis je le comprends très bien. Mais je serais curieux de savoir pour vous, Marité, est-ce que vos connaissances viennent des livres ou de l'instinct ou de la tradition? Quelle est la part là, d'expérience et de connaissances dans votre technique d'aujourd'hui?
La part, je ne sais pas, mais ça vient d'un peu tout ça. Là. C'est sûr que moi, venant d'une famille agricole, j'avais ce background, comme on dit en français. Hein.
Cette expérience-là, ce bagage-là.
Bagage. Puis c'était une famille paysanne aussi.
Oui, c'est ça. Moi, mes parents étaient âgés. Là. J'étais la plus jeune de famille de 6. Mes parents étaient âgés. Là. Donc, c'était comme une autre génération de paysans, là, de petits paysans. Il y avait quelques vaches, un cochon, quelques poules. Ils vendaient tout à la ferme. Le lait était vendu à la ferme. Comme ça, les gens venaient avec leurs bouteilles chercher le lait à la ferme. Ils venaient chercher un canard que ma mère tuait, puis qu'elle plumait, puis tout ça. Ou les œufs, ou les légumes, tout ça. Bon, ils avaient des grosses cultures un peu plus, mais c'était quand même cette génération-là où c'était la petite paysannerie, là. C'était ça, puis... Mon père, ça le fâchait vraiment, là, quand on partait en voiture, puis qu'il voyait les grands champs, puis toute l'eau qui était dans les champs, puis tout ça, c'était comme... pour lui, c'était pas... c'était de l'agriculture, mais c'était... Ça, en tout cas, ça le fâchait, là, de voir ça, là.
C'est le manque de respect environnementaliste. Dans le fond, c'était l'écologique en lui là, qui pleurait.
Ouais, je pense. Il était pas, c'était pas quelqu'un qui, tu sais, il a jamais fait d'agriculture bio ou quoi. T'sais. Il traitait ses patates contre les doryphores, puis tu sais, il mettait de l'engrais aussi ou tout ça. Mais c'était tout le temps minimal, puis tu sais, c'était pas. Mais c'est ça, il trouvait souvent que ça avait pas de sens ce qui se faisait là.
Ouais, puis on n'était pas aussi connaissant qu'aujourd'hui sur les impacts négatifs. C'était des fois perçu comme une petite révolution, ces technologies là qui arrivaient du jour au lendemain. Mais moi, je suis le point de traiter contre les doryphores, je suis plus capable d'en voir là, dans mes patates là.
Les autres, non. Tu mets tes enfants au ramassage.
Ouais. Ah ouais, et le plus vieux il devrait.
C'est tellement satisfaisant à faire exploser entre ses doigts. Au début, mon fils, il trouvait ça dégueulasse, mais à cette heure, c'est un passionné. Puis, il s'approche de moi puis il me menace qu'il va me le sproucher d'en face.
Le mieux, c'est quand t'en as deux du même âge. Tu sais, deux petits gars, mettons, un peu orgueilleux, là. Puis là, tu dis, c'est qui en ramasse le plus aujourd'hui? Nous autres, un jour, on a une famille de woofers qui avait comme deux petits frères du même âge à peu près. Là. Et cette année, on a eu des super belles patates. Cette année-là, je... Wow. Il arrivait le midi. Moi, je l'ai ramassé 59.
Tu vas pouvoir les tirer d'un cheveu de ta grande sœur après. Ah ouais, OK, c'est bon.
Je vais prendre leur numéro en note.
C'est ça que ça fait un peu aussi l'autosuffisance puis le l'agriculture à vraiment petite échelle, tu sais, ça fait que tu peux comme mettre tes enfants en contribution, puis tu vas sauver ces pesticides là, puis toi tu vas manger tes patates, puis c'est ces patates là qui vont être produites en moins dans les champs conventionnels, tu sais. on rit puis on trouve ça drôle, puis en même temps ça a quand même un impact pour vrai, tu sais.
C'est vrai.
Tu peux pas envoyer une gang d'enfants, tu sais, ramasser des dorifores dans un champ à l'infini là.
C'est vrai.
C'est ok, t'envoies une classe scolaire, tu sais, oublie ça.
Ça c'est quelque chose, peut-être les gens détachés du monde agricole sont pas conscients à quel point les superficies en monoculture ou disons en rotation réduite sont tellement imposantes qu'on peut pas penser à mettre, je sais pas moi, des filets anti-insectes ou de désherber ça à la main. Ça finit plus là. Je regarde le champ de mon voisin puis j'aurais pas encore fini de désherber, qui probablement qu'il faudrait que je recommence le début de ma parcelle parce que là les autres qui ont passé au travers seraient rendus trop grandes. Mais à la petite échelle, oui, on a des outils ou des moyens, je pense, qui sont disponibles. Tu as mentionné les woofers. J'ai vu qu'il y avait un encadré dans le livre qui en parlait, mais vous n'êtes pas une ferme à proprement parler, ou là où je me trompe?
Non, c'est pas commercial. Là. C'est vraiment
non commercial,
juste,
ouais.
C'est okay, vraiment bon, juste pour nous.
Mais il y a des gens de par le monde qui décident de venir passer un certain temps chez vous pour apprendre comment vivre l'autosuffisance. C'est ça l'idée? Oui,
ouais, de plus en plus. Ouais. Ben, sur le site du Woofing, t'as pas besoin d'être une ferme commerciale pour être inscrit sur le site du Woofing. Ils te le demandent, c'est dans les questions sur le profil commercial ou non commercial. Là. Puis ben il y a vraiment des woofers qui choisissent ça, qui viennent parce que c'est non commercial. Là.
Ok. Ouais, puis c'est ça qu'ils cherchent finalement comme expérience, une expérience un peu paysanne. Là.
Ouais, c'est ça. Oui, ils savent qu'ils vont avoir des travaux plus diversifiés aussi, tu sais, comme on parlait des dorifores à ramasser, mais ça peut être du désherbage, tu sais, des woofers qui arrivent d'autres fermes où ils ont fait du woofing, puis ils ont désherbé des carottes pendant 2 semaines, tu sais, c'est... Donc, ils savent que dans une petite ferme comme ça, ben, ça va être plus diversifié aussi, puis... Ben, ils cherchent de plus en plus ça aussi, surtout depuis la COVID, là. Les woofers qu'on voit passer, il y en a beaucoup, tu sais, qui viennent chez nous parce que c'est un mode de vie qui les attire aussi. Puis il y en a beaucoup qui disent que ça a changé aussi leur vie, ben, leur manière de voir la vie aussi, tu sais,
de l'essayer.
T'sais. Souvent, il y a beaucoup qui viennent, qui sont français, puis qui partent, qui sont en PVT, qui partent pendant 2 ans, justement parce que, bon là, ils veulent plus, ils veulent changer ils travaillent ou ils étudient dans une affaire, puis là, ça leur correspond plus, ils cherchent quelque chose. Hein. Ça fait que là, ils s'en vont faire des expériences comme ça, puis là, ben ça les éclaire un petit peu sur ce qu'ils cherchent.
Moi, je pense que ce qui attire le plus les woofers à venir travailler chez vous, c'est quand ils voient le livre à Marie, puis c'est marqué « non-travail » sur le livre. Ah, c'est là que je vais aller.
Ouais, ils n'ont pas lu la phrase au complet.
Avant d'aller là, moi, je veux juste prendre la balle au bon pour l'histoire des woofers, parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit chez nous en agriculture, je lui suggère fortement d'aller sur une ferme ou de mettre les mains à la terre. Fait que si c'est le cas de gens, des fois, qui nous écoutent, ben allez en faire une expérience du genre pour voir si vous êtes fait pour ce métier-là ou ce mode de vie-là, parce que la perception versus la réalité, je suis pas mal certain que vous n'avez eu dans un sens comme dans l'autre, peut-être qu'ils ont dit « Ah, finalement, c'est pas pour moi, mais j'ai apprécié l'expérience, merci
ah,
beaucoup. »
Ah oui, ben c'est sûr, il y a eu les deux. Mais il y a quand même plus de gens qui ont envie de s'en aller plus vers ça. Au moins, ça leur a donné le goût de jardiner, d'avoir un petit jardin, sans être autosuffisant, là, mais au moins d'avoir un jardin, tu sais, chez eux, puis de le faire, ouais. Hein, au minimum.
Ben, c'est certain que pour poser le geste de s'inscrire comme woofer et vivre l'expérience, normalement, j'ose espérer qu'ils vont pas reculons ou que c'est pas leur chum ou leur blonde qui s'inscrit à leur place sans leur dire « ça va être ça les vacances cet été, chérie ».
C'est parce que il y en a que, tu sais, ils y vont parce que c'est une manière de voyager pas cher, tu sais.
Ah!
Ils sont nourris, logés, bon, ils vont travailler un petit peu, puis, tu sais, il y en a qu'il faut pousser un petit peu, là, mais il y en a pas beaucoup.
Il y en a
général.
de moins en moins aussi. Depuis la sortie du livre, il y a plus ouais. de... Il y a des... Parce qu'on est sur le site du Woofing, il y a un site... c'est ça là qui regroupe toutes les fermes puis tous les voyageurs, puis là ça, c'est là qu'on se met en réseau ensemble. Mais depuis la sortie du livre, il y a des gens qui nous contactent par, qui ont vu le livre finalement, qui nous contactent pas par le site du Woofing, tu sais. Fait que là à ce moment-là, ben eux ils ont déjà un pas de plus de fait de, tu sais, s'ils ont acheté un livre, c'est parce que déjà ça les intéresse. Là.
Ouais, voilà.
Donc parlons-en de ce beau livre-là, Le Jardin Vivrier, Autosuffisance et non-travail du sol de Marie Thévard, paru chez Éco-Société il y a pas très longtemps. D'habitude, quand on fait un balado, on se dit ben là, le but c'est pas de faire une pub pour notre invité, mais là on fait une pub pour le livre parce que il est vraiment fantastique, puis tu sais, c'est tout ce qu'on souhaite, là, Pierre-Antoine puis moi, dans toutes les discussions puis toutes les raisons qui nous poussent à faire ce balado-là. C'est un peu condensé entre les deux couvertures du beau livre que tu as écrit, Marie. Félicitations, ça fait rêver, puis c'est complet. Bon, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le sous-titre, Autosuffisance et non-travail du sol. Donc, comme je disais tantôt, non-travail, là, moi, ça m'excite, j'aime ça. Mais pourquoi une aussi grande importance au non-travail du sol? Je veux dire, l'agronomie, c'est une science qui est vaste. Là. Il y a tellement de chapitres, puis de volets, les insectes, les plantes, l'agronomie, etc. Pourquoi le non-travail du sol, ça mérite une place là, sur la page couverture? Pourquoi c'est si important?
Ben c'est sûr que nous, ça nous distingue des autres techniques agricoles parce que c'est vraiment non-travail du sol. Il y a même pas de grelinette, il y a pas de bêche. Ma mère, elle a commencé en 2012 à arrêter de travailler le sol de son jardin, puis depuis ce temps-là, il a jamais été retourné. Il a pas vu le soleil depuis 2012, si on veut.
Wow, OK.
Fait que c'est pas juste à peu près, là, tu sais. C'est vraiment, ça fait partie intégrante de la technique. C'est la base, ouais, de notre expérience.
Puis si tu peux décrire ta technique en quelques mots?
Si on veut, là, ben, faut pas parler trop de non-travail, là, mais ça revient quand même à faire travailler le microbiote du sol à ta place.
OK.
Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que la meilleure façon de comprendre ça, c'est d'imiter le sol forestier.
Mm-hmm.
Parce que dans le temps hein, que... ma mère, elle s'était blessée. En tout cas, je vais repartir du début, là. On voulait déjà éviter d'utiliser le pétrole dans le jardin.
Ouais.
Pour essayer d'avoir un bilan énergétique positif que tu produis des calories au lieu d'en consommer dans ton activité agricole, tu sais. Parce que le pétrole, c'est très calorique. Fait que, tu sais, le but de l'agriculture, c'est produire des calories. Puis on sait actuellement que l'agriculture pétrolière, si on veut qu'elle soit bio ou non, est négative énergétiquement, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça. Fait que là, on n'avait pas de rotoculteur, pas de tracteur, tout ça depuis vraiment longtemps. Fait que ma mère a bêché à la main. Puis là, le jardin agrandissait. Puis c'était quand même beaucoup de travail parce que c'est là qu'on se rend compte de qu'est-ce que ça consomme comme énergie quand tu le fais toi-même. T'sais. Le sol, c'est vraiment très lourd. Puis c'est très exigeant. En plus, nous ici, on est sur l'argile.
Wow.
Fait que travailler ça, c'est quelque chose. Puis on le voit d'ailleurs. J'ai vu des graphiques là des émissions de gaz à effet de serre. Puis il y a toujours un pic au moment des récoltes puis des semis parce que ça, c'est comme les tracteurs, tu sais, qui préparent les champs. Fait que c'est ça. Ma mère, elle s'est blessée en 2012. Puis là, elle s'est dit ben là, je peux pas bêcher toute cette grandeur là, tu sais. Fait que c'est là, on a décidé d'arrêter de le bêcher. Donc on avait lu des livres dont Le génie du sol vivant. C'est ça, qui est vraiment très bien fait, là, si vous voulez lire ça. Les auteurs, ils faisaient un peu le parallèle en expliquant que, dans le fond, l'être humain, on a colonisé les terres les plus fertiles de la planète, souvent les deltas des rivières, puis on a défriché la terre, puis on a cultivé, puis on a laissé les moins belles terres pour la forêt, si on veut. Puis au fil des ans qu'on cultive cette terre-là, la fertilité diminue. Tandis que les terres qu'on a laissées, qui étaient pauvres au départ, mettons le bouclier canadien, c'est juste de la roche, mais la fertilité de ce sol-là augmente, puis la quantité de biomasse qui est produite augmente toujours avec l'évolution du système forestier. Fait que là, il a dit, comment ça que nous, on a pris les plus belles terres, puis qu'ils se dégradent, tu sais, alors qu'on peut, en fait... augmenter la fertilité. Fait que il s'est dit ben il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Fait que dans le fond, ça revient à imiter le fonctionnement du sol forestier, c'est-à-dire de toujours avoir une couche de matière organique accumulée en surface. Nous, on vise à peu près 10 cm. Fait qu'il y a toujours 10 cm d'épaisseur de matière organique qui recouvre le sol. Puis on s'en rend compte en le faisant que le microbiote du sol, toutes les bactéries, les champignons, les levures, les insectes, les petits animaux, en tout cas je peux même pas vous les nommer toutes, c'est infini là. La science actuellement est pas capable de comprendre précisément tout ce qui se passe dans le sol, parce qu'en plus c'est spécifique à chaque sol. Donc eux ils se nourrissent de cette matière là, puis ils vont la décomposer, puis c'est comme ça qu'ils vont créer le complexe argilo-humique, l'humus du sol finalement.
Wow.
Donc puis avec les champignons, les galeries des insectes, les vers de terre, etc., les racines qu'on va laisser dans le sol qui vont se décomposer, ben c'est tout ça qui va créer de l'aération, puis qui crée une structure finalement qui se tient. Parce qu'après, quand on laboure ça, ben on va déchirer les mycéliums, on va détruire les galeries, on va couper les racines en petits morceaux. Puis on pense qu'on aère le sol, mais finalement, après, il se tient plus. La structure est brisée, puis il va s'affaisser. Puis c'est ça qui fait que les sols ont des problèmes de compaction en ce moment. Sans parler de la semelle de labour aussi. Fait que quand on laisse le microbiote travailler, labourer à notre place, ben lui, son travail d'aération, il va être durable.
Mm.
Fait que c'est un peu ça.
C'est aussi que chacun, ils ont chacun leur strate dans la terre. Il y en a qui sont très profonds, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont en haut, puis il y en a qui sont carrément en surface, les insectes, tout ça, puis les dégradeurs. Donc, si on le retourne, ben, ceux qui sont dans le fond, ils se retrouvent à la surface, puis tout est mélangé. Donc, après ça, il faut qu'ils retrouvent leur place et puis qu'ils fassent pour faire leur travail correctement.
Hey, wow, après 10 ans, là, votre sol, il doit être très structuré. Puis, pour le bénéfice de nos auditrices, de nos auditeurs, souvent la texture du sol, c'est la répartition de sable, limon, argile qu'on retrouve dans notre sol en différentes proportions avec de la matière organique. Mais la structure, c'est l'agencement entre les particules de sol que je viens de mentionner. Puis le complexe argilo-humique, ben, c'est un niveau encore plus complexe, je dirais, de structure entre les particules d'argile et la matière organique. Donc, après 10 ans chez vous, la structure, elle doit être exceptionnelle là, quand tu creuses dans le sol, Marie. Là.
Ah, t'hallucinerais, là. Je te dis, l'argile est tellement pure, fine, là, qu'on a fait le four à pain avec. Là. Tu peux faire de la poterie. Ouais. C'est vraiment de l'argile lourde. Là. On est dans un dépôt de l'ancienne mère Laflamme. Là.
Ouais.
Puis, quand tu rentres ta main dans le sol, là, comme dans un sac de tourbe. Là.
Maintenant,
c'est
ça.
Quasiment. Là, genre, tu peux jamais deviner que c'est de l'argile. Là.
Wow. Puis, ça aussi, c'est intéressant de le mentionner, c'est que nos sols au Québec sont assez jeunes. Là. La mer de Champlain, c'est à peu près 12 000 ans là, d'évolution des sols. Puis ça peut prendre juste quelques minutes ou secondes à le compacter, puis après peut-être même le voir s'éroder. Là. Donc on peut pas revenir en arrière une fois que ce dommage-là est fait, là, ou c'est plus long,
ben non, c'est
du
sûr.
Moins.
Puis toute l'érosion aussi, tu vois, les rivières sont brunes, là, ben ouais. Ça c'est du sol arabe qui est parti dans l'océan puis qu'on verra plus jamais.
Exact.
C'est quand même grave.
Exact. Hey, t'as mentionné mettre 10 cm de matière organique.
Ah ben oui, mais ça m'a fait de quoi? Parce que PA, toi, tu riais de moi quand je mettais 2 pouces de compost sur mon... Moi, c'est très sableux chez nous. Puis PA, il a répété souvent que le compost, ce n'est pas un paillis. Mais là, vous êtes en train de dire la même chose, le contraire.
Ben, on met les deux.
Ouais.
On met du compost et puis du paillis après par-dessus.
On met pas du compost tout le temps non plus. Hein.
On met pas du compost tout le temps non plus. Ça dépend de quelle plante et puis qu'est-ce qu'il y a eu comme compost l'année d'avant ou quoi. Mais ouais, c'est ça. Si on met du compost, on va rajouter du paillis par-dessus pour cacher le compost pour qu'il soit pas à la lumière, aux ultraviolets, puis au vent, puis...
Voilà, tu vois Pierre-Luc, là, ils m'ont défendu, sans même que je prenne parole. Mais 2 cm de compost, c'est que la charge fertilisante à l'intérieur est énorme, mais Marie, ce qu'elle a évoqué, c'est 10 cm de matière organique, donc là, on...
De compost et de paillis.
Ben, vas-y, Marie, c'est quoi ce 10 cm-là? C'est d'avoir plusieurs exemples, en fait, là.
Ben, on compte le compost, parce que dans le fond, vu qu'on touche pas au sol, le compost, on va pas l'incorporer.
Ouais.
On fait juste l'étendre en surface. Puis, tu sais, dans une rotation sur 4 ans, ben on va en mettre l'année où s'il y a des courges, mettons, sur cette planche-là ou des choux, quelque chose qui a besoin de plus de compost, t'sais. Puis les autres années, on n'en met pas forcément. Fait qu'on va juste étendre, je sais pas, peut-être 2 cm d'épaisseur en surface.
Un peu plus.
Selon la culture qui est là. Puis après, on recouvre de paillis. Fait que dans le 10 cm, on inclut le compost qui est facultatif et le paillis.
Puis c'est un compost qui vient essentiellement de chez vous. Vous achetez pas de compost, vous autres. Là.
Ah non, on n'achète pas de compost, puis on a des réserves d'avance, là. En fait, on parlait tantôt du bilan énergétique. Ben, il y a deux préoccupations majeures, là, qui, dans nos orientations philosophiques, si on veut, là, il y avait le bilan énergétique, puis l'autre, c'est le bilan des nutriments. Tu sais, si on prend le bilan comme le sol comme un réservoir, puis que tu fais ton bilan comme un bilan comptable, puis que tu sors toujours de la matière, nécessairement, il va s'épuiser, la fertilité va diminuer. Fait que nous, c'est ça, on essaye de pas acheter de compost, fait que dans le fond, c'est de retourner au sol tout ce qu'on lui prend, tu sais. Fait qu'on a des toilettes sèches, on composte nos toilettes, puis tout retourne dans le jardin, fait que ça, c'est une grosse partie de nos matières fertilisantes. Après, on a aussi du fumier de poule, un peu de fumier de chèvre, tous les résidus de culture. Pendant certaines années, on a récupéré du compost aussi d'un café en ville, mais maintenant, on le fait plus. Là.
OK. Puis c'est quoi la litière de vos poules puis de vos chèvres? Est-ce que c'est du bois ou de la paille?
Ouais, les deux.
De la paille, du vieux foin, c'est variable.
De la ribe paille de bois, ou vieux foin.
Ouais, des fois, la poule, des fois, c'est de la ribe de bois, ouais.
Puis ça a sa place, là, comme... Ça se composte bien, là, cette ripe-là.
Ah oh, ouais, ben c'est ça qu'on met dans les toilettes, là, c'est de la sure de bois, là, ouais.
Bon, je voulais en venir à ça, moi.
Ouais, vas-y, Pierre. Parce que là, on veut parler de fumain, là, c'est ouais. Passionnant. Parce que moi, je me retiens toujours pour pas parler de mon urine dans mes tomates, mais là, avec vous autres, je pense que je vais pouvoir me gâter.
Let's go! On aime ça!
Ouais, pis c'est peut-être une raison pourquoi certains woofers viennent plus chez vous, là, fait que... Fait que du fumain, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver, ça?
Ça mange la ripe.
Ouais, ça mange la ripe, ouais. Ça mange...
Ça mange des excréments et de l'urine.
Ben, nous autres, là, on aime ça quand c'est simple et efficace, tu sais. Fait que tous les systèmes de séparation des urines avec des évacuateurs, etc., on n'est pas embarqué là-dedans, là. Nous autres, on a un seau. Puis on met tout dedans avec de la sûre, les papiers toilettes, puis tout. Puis quand c'est plein, on va le vider dans un bac dehors. Quand le bac est plein, on fait un andin, puis on fait un tas de compost avec ça, tu sais. Fait que c'est ça.
That's it, là. 4 saisons par année, là.
Ah, ben oui, c'est sûr. On n'a pas de toilette à eau, de toute façon, dans la maison.
OK.
Qu'est-ce qu'ils disent, les détracteurs du fumain? Ils disent quoi? C'est quoi les peurs qu'on pourrait avoir? Hein?
Ben, les mentalités évoluent vraiment beaucoup, hein. Puis, dans les années 90, là, je me rappelle, les enfants, là, quand j'étais petite, on fallait pas qu'on dise qu'on avait des toilettes sèches, tu sais, parce qu'on avait vraiment l'air dégueulasse. Puis, c'était beaucoup les pathogènes, la principale crainte.
Ouais.
Pis, les odeurs aussi.
Ouais, les odeurs. Mais, tu sais, nous, on s'en gêne pas d'en parler aujourd'hui dans toutes les conférences, les ateliers qu'on donne, là. Moi, je me fais un grand plaisir. Tu sais, parce que pour moi, c'est tellement aberrant les quantités de matières fertilisantes qu'on envoie juste dans l'océan, tu sais, dans nos cours d'eau, parce qu'on récupère un peu les bouts d'épuration, mais le phosphore qui est dissous dans l'eau, on le reverra plus jamais, tu sais. Fait que, puis il y a certains peuples en Asie ou en Amazonie qui ont réussi à maintenir leur population sur les mêmes terres agricoles pendant des millénaires. Puis, tu sais, pour moi. Une des solutions, tu sais, pour la planète en ce moment, ben ça revient à s'inclure dans un écosystème. Puis pour s'inclure, ben il faut que tu t'inclues jusqu'au bout, là.
Ouais.
Faut fermer la boucle. Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que on en parle en masse. Puis en fait, le retour, il est vraiment positif.
Ouais.
Puis on avait une visite hier. Puis les gens sont un peu comme toi, là. Tu sais, ah ben enfin, je peux en parler. Puis moi aussi, je fais ça chez nous. Puis c'est super intéressant. Tu sais. Fait que puis il y a de plus en plus de gens qui s'installent les toilettes sèches, puis fait que ça chemine beaucoup loin.
Des fois ils s'installent une toilette dehors, tu sais, pour genre bécosse là, mais sèche là, avec de la sciure, tu sais, pour quand ils sont dehors ou quoi, pour donner l'option pour avoir les deux.
Voilà, parce que
c'est un début.
Un peu comme le jardinage, sans atteindre 100% d'autosuffisance, on peut tendre vers, fait qu'on peut faire du fumain une partie de l'année, puis l'hiver, ben, on retourne en dedans, là. C'est les gens peuvent l'essayer sans nécessairement que ça devienne une pratique quotidienne, là, si je peux dire, là.
Ben ouais, puis il y a plusieurs manières de le faire. Notre voisine, elle s'est mis une bécosse, elle a creusé un trou, puis quand son trou y est plein, elle déménage sa bécosse, puis elle plante un arbre, tu sais. Fait qu'elle a aucune gestion à faire.
C'est génial.
Puis c'est du papier cul qui pousse dans l'arbre.
Non, mais je peux te dire qu'il donne des pommes en tabarouette.
Des pommes de route. Wow.
Ouais, puis c'est ça. Je peux ajouter quelque chose, là. On avait fait une analyse de sol... au début des années 2000, puis on avait un, tu sais, l'analyse était relativement pauvre là, dans tous les, c'était pauvre en phosphore puis relativement pauvre dans tous les autres nutriments. Puis j'ai refait une autre analyse en 2019 pour la sortie du livre. Puis tous les nutriments sont à côté dans le maximum très riche, tu sais.
Wow.
Puis entre les deux, on a amené du compost, tu sais, on a récupéré le compost d'un café en ville, on a mis du fumier de chèvre, du fumier de poule puis notre propre fumain, tu sais. Wow. Fait que quand j'ai reçu l'analyse là, honnêtement, j'ai eu comme une lumière dans pour l'avenir, tu sais. C'est une des raisons qui m'a motivé à écrire le livre aussi, c'est que je voyais dans notre mode de vie comme un espoir, tu sais. Des fois tu regardes le système, tu te dis OK, où ça s'en va là, je suis pas trop sûr, tu sais. Puis quand tu vois que dans le fond, tu es capable de remonter la fertilité d'un sol par ta simple présence sur ce sol-là, mais c'est là que tu dis, tu sais, on veut toujours réduire notre empreinte écologique parce qu'on a une empreinte négative, tu sais, mais on peut-tu peut-être avoir une empreinte positive?
Ouais.
Ça reste une question, tu sais, parce qu'on a utilisé aucun engrais fossile, aucun, pas d'azote, même pas d'actisol, tu sais. Fait que, en tout cas, c'était quand même vraiment encourageant, là.
Fait que c'est possible que de le faire, puis... T'sais, la source, comment dire, de matière organique qu'on met, juste pour revenir au fumain, si ça l'a composté puis ça l'a chauffé suffisamment, les pathogènes à l'intérieur, ils vont mourir. Puis des fumiers d'éjection animale, on en met de d'autres sources, puis on est des animaux en bout de ligne, là, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est possible d'être utilisé au jardin. Puis on fait pas exprès non plus de placer ce fumier-là ou ce fumain-là la veille d'une récolte de tomates, puis de n'asperger partout sur nos tomates non plus. Là.
Non, c'est fait ça. Ou de le mettre aux carottes, du fumier, du fumain frais aux carottes. Non, on fait pas ça, c'est ça.
Voilà. C'est
bien. On l'avait déjà fait analyser un tas de compost de fumain, puis il était sain, là. Il était...
En fait, oui, c'est intéressant comme comparable, peut-être même de le comparer à un fumier de bovin laitier ou autre, n'importe quelle source de compost, là, de déjection animale. Ça serait intéressant, là, quand même, à voir, là.
Ben ouais. Ben c'est sûr que faut pas niaiser non plus, tu sais. C'est ben quand. Tu sais, c'est ça. C'est assaini une fois que c'est composté, mais avant ça, ça reste du fumier, tu sais, comme n'importe quel fumier du fumier de poule. T'en mets pas dans ta salade, là. Tu sais, la salmonelle, c'est pas le fun non plus.
Non.
Tu sais, c'est vraiment le compostage qui assainit, puis c'est ça. Faut faire attention. Nous, on le composte pendant 2 à 3 ans, puis la première, tu sais, une autre solution, c'est que la première année, tu le mets justement à tes tomates, tu sais, comme ça. La tomate n'est pas en contact avec le sol, puis là, dans ta rotation, l'année...
De toute manière, on va rajouter du paillis par-dessus, de toute manière. Hein.
C'est
donc,
vrai.
Puis dans ta rotation, tu vas avoir des légumes racines une année plus tard, fait que...
On est correct. Pour revenir au livre, en ce moment, le jardin chez vous, Marité, nourrit combien de personnes à peu près?
Cette semaine, on est assez nombreux. Il y a plusieurs woofers, là. Mais Marie l'avait écrit pour... elle avait fait le calcul sur une année, puis c'était comme 5 adultes, là, en moyenne.
Il y a quand même un tableau qui est présenté dans le livre où il dit combien qu'on devrait planter de carottes, de tomates, etc. Puis, tu sais, moi, mon cœur a fait virer à l'envers quand j'ai vu 9 plants de courgettes, là, parce que nos auditrices, nos auditeurs connaissent ma passion pour les courgettes. Ce qui m'apparaissait beaucoup, mais si les gens désirent s'en inspirer, je crois, comme planification du nombre de plants à avoir pour nourrir une famille, donc ce serait pour à peu près 5 personnes adultes, là, si j'ai bien suivi. Là.
Oui, c'est ça.
Parfait.
C'est des adultes, parce que elle a fait une moyenne avec les woofers qui sont passés ici, puis ou les enfants qui sont adultes, là, qui passaient ici. Là. C'était une moyenne. Oui.
Puis c'est pour quelle superficie, ça, 5 adultes? C'est quoi la superficie de vos jardins?
Le potager, c'est 1500 m2. Puis on a à peu près l'équivalent en verger.
OK.
Fait que le terrain, c'est 4000 m2, là, 40 000 pieds carrés. Fait que,
avec un acre, là, on peut faire vivre une famille.
Ah ouais, ben c'est ça, nous, c'est 5 adultes. Fait que c'est 2 adultes, 2 enfants, ça prend moins que ça, là. Ouais. Après, si on a plus grand, on peut aussi continuer l'autosuffisance, là, tu sais. Dans le fond, nous, on produit 100% des légumes, une bonne partie des fruits, une bonne partie des protéines aussi avec toutes les légumineuses, les haricots secs, là, les beans, pois chiches, soya, pois à soupe, gourgane, tout ça. Puis, fait qu'on achète quasiment pas de protéines, là, en étant...
En plus des œufs puis de la viande des chèvres.
Ouais, c'est ça. En étant majoritairement végétarien, ben ça permet aussi de produire beaucoup tes protéines. Puis un peu de féculents avec les pommes de terre, quelques portions de céréales, tu sais. Mais tu sais, après, si on a plus grand, ben on peut continuer à produire plus de féculents ou produire ses huiles, mettons. Mais tu sais, pour faire vivre une petite famille en termes de légumes, ça prend pas grand, là.
Non. C'est le taux complet qui est plus exhaustif aussi, là.
Ouais.
Parce que là, vous faisiez aussi du quinoa, là, je pense que j'ai bien lu dans le livre, là.
Ouais, on fait des expériences un peu. Le quinoa, on n'a pas vraiment réussi encore, mais les autres céréales, ça marche quand même.
Ouais, je rappelle, vous êtes en zone 3B.
C'est ça.
Ce qui est quand même nordique.
Ah ouais, c'est ça.
Et avez-vous une serre, un abri tempo serre, j'imagine?
Oui, ben maintenant, Marie, on parle pas dans le livre parce qu'elle n'était pas construite, mais maintenant, on a une serre fixe en dur, là, qu'on a adossée au poulailler.
Mm-hmm.
Qui sert d'enclos pour les poules en hiver. Donc il y a cette serre fixe là, puis j'ai quand même gardé une petite serre tempo comme j'avais avant, comme celles qui sont écrites dans le livre.
Waouh, génial. Puis écrire ce livre là, Marie, ça t'a pris combien de temps?
Tu veux savoir en quel en quel type d'heure? Je pense que j'ai fait
en heure, en année. Écoute, c'est tellement complet,
je pense que j'ai fait rentrer 4 ans en 2 ans et demi, en fait, là. Puis je fais un petit burn-out après, mais ça, c'est un secret.
OK, on peut couper ça au montage.
Non, c'est pas obligé, c'est pas vraiment un secret, mais... dans le fond, j'ai commencé à l'automne 2018, j'ai fait un an que j'ai suivi ma mère dans son jardin, tu sais, parce que je connaissais déjà le jardin, mais je n'étais pas tout le temps derrière ses talons, fait que là, c'est ça que j'ai fait.
Uh-huh.
J'ai pris les photos, j'ai pris les notes, tout ça, puis l'autre année, j'ai écrit. Puis après ça, on peut rajouter, mettons, 6 mois pour les corrections puis la mise en page, tout ça.
La relecture.
Quand même. Quel ouvrage.
Je suis en train de feuilleter le livre. Là. Je vois pas le chapitre sur le burn-out. Là. Mais est-ce que ça aurait dû avoir ça comme sous-titre, autosuffisance, non travail du sol et burn-out? Non, mais ma vraie question, là, c'est...
On pourrait en parler.
Est-ce que c'est facile? Tiens, je vais la poser comme ça.
Je pense qu'une des facteurs pourquoi que mon énergie revient quand même assez bien, là, c'est vraiment l'alimentation. Mais en tout cas...
Wow, ben oui.
T'sais, ça a été dur d'écrire le livre, mais t'sais, l'autosuffisance, c'est différent. Là. T'es pas devant l'ordi.
Non, hein? C'est pas le même métier, là.
Non, c'est ça.
Mais quand même, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus. À quel point c'est facile ou difficile d'atteindre l'autosuffisance que vous avez atteint, les filles?
Ben, c'est sûr que c'est du travail. Faut pas se le cacher, là. Faut se lever le matin. Puis faut pas avoir peur de travailler. Mais en même temps, quand on aime ça, puis que ça nous passionne, et puis que aussi on est vraiment décidé parce que c'est notre vision du mode de vie, parce que on veut comme c'est mon cas, produire mes légumes pour pas porter sur manger localement, pour pas porter sur les pays pauvres ou quoi, pour manger des bananes ou des fruits et légumes, des avocats ou des choses qui sont produites là-bas, puis qui font travailler les gens, que les gens ont pas de terre parce que c'est des exploitants, des gros exploitants agricoles qui prennent toutes les terres, puis qui font travailler pour rien. Et puis, donc pour moi, c'était une question éthique aussi, là. C'est pas juste une question de produire mes légumes pour ma santé ou pour la santé de mes enfants ou la santé des sols. C'est aussi une question éthique que j'ai fait ça. Ça me tient aussi beaucoup à cœur, là. Donc,
c'est énergisant, là, cet aspect-là.
Oui, c'est ça. C'est énergisant parce que c'est une raison qui te pousse à le faire, là. J'ai envie d'être équitable avec tout le monde, donc je produis mes affaires, hein. C'est ma manière à moi, puis je pense que s'il y avait plus de monde qui le faisait, ben il y aurait peut-être moins de souffrance aussi dans le monde là pour la nourriture et puis tout ça, non?
C'est vrai. Puis comme tu l'évoques très bien, c'est un mode de vie aussi, parce que j'ai bien compris qu'il y a eu 4 enfants au travers qui ont fait l'école à la maison, qui ont été élevés sur ouais. sur la ferme à la maison. Donc c'est un mode de vie là, qui convenait là.
Oui, c'est ça. Ben moi c'était ça que je voulais vivre. Je voulais aussi élever mes enfants. Au départ, j'avais pas pensé à l'école à la maison. Ça c'est venu un peu au fur et à mesure. Mais élever mes enfants était pour moi quelque chose de très important. Je voulais pas les faire élever par quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était hors de question. J'avais des enfants, c'était ma responsabilité de les élever là. Donc c'était ma manière de voir, donc on s'était entendu comme ça pour que je reste à la maison puis que j'élève les enfants puis
des petites mains comme ça désherbe tellement bien. Ah ouais, on va se l'avouer là, c'est pour ça dans le fond, c'est ça qui est traditionnel. Si on fait des enfants, on veut que ça soit des gars puis que ça travaille fort.
Hey, wow, les filles ça travaille aussi.
J'ai eu 3 filles et un gars, il y avait pas beaucoup de gars.
Puis sinon, pour revenir à la quantité de travail, là, c'est vraiment faisable, là, tu sais, comme ma mère a travaillé avant le COVID, là, dans une auberge qui marche plus trop aujourd'hui, mais toute la saison touristique, là, de juin à septembre, octobre, là, fait que elle travaillait à temps plein, tu sais, fait que le jardin, c'était en plus, fait que, tu sais, c'est sûr que nous, on a des woofers, mais ils mangent aussi, fait que dans le bilan, c'est à peu près égal, là, mais dans le fond... Ce qu'il faut prévoir, c'est le mois de mai, mai à mi-juin, tu sais, comme début mai à mi-juin, puis septembre-octobre, tu sais, disons, grossièrement, là, que là, c'est exigeant en plus, là, tu sais, si t'es pas là pour semer, ça va pas pousser, puis si t'es pas là pour récolter, tu vas juste rien avoir, tu sais. Fait que c'est comme à cette période-là, si tu peux prendre des vacances de ta job ou quoi, te libérer plus, ben... Après ça, le reste de l'année, juillet, t'attends que ça pousse, puis janvier, ben là, y a plus grand-chose non plus à faire. Fait que, ouais, non, c'est vraiment faisable.
Mais il y a quand même des choses à faire en été, là, mais...
Ouais, c'est ça, mais pas tant exigeant que le printemps, là, ouais, c'est ça.
On se rejoint là-dessus. Moi, au moment où on enregistre cet épisode, c'est le retour au cégep, là, aujourd'hui même, et je vois les courriels qui rentrent un après l'autre et toutes les carottes que j'ai à sortir, les pommes de terre, les tomates à transformer.
Ouais.
Fait que c'est ça. Les récoltes, faut être là parce que sinon, c'est quoi, on peut pas faire ça pour que la finalité, ça soit pas de manger nos légumes, sinon ça a pas de sens.
Mais c'est ça,
ouais, c'est ça.
Je vous ai entendu dire, les maris, que vous ne travaillez pas le sol. Donc, bien sûr, je m'imagine que la carotte que je récolte, elle laisse un beau trou, puis là, la nature va faire sa place là-dedans, puis c'est votre façon de travailler le sol. J'imagine aussi que le plant de tomate, admettons, est-ce que vous l'arrachez ou vous le coupez à la base?
Non, on va le couper. C'est dans le non-travail du sol, c'est important de laisser les racines dans le sol. Parce que
Mais ça va pas créer de la pourriture dans le sol, là, ça va pas moisir dans le sol, ça va se composter.
Ça va, toutes les bibites, la faune qu'il y a dans le sol, la flore, les champignons, tout ça, ils vont s'occuper des racines, ils vont s'occuper de les transformer. Et puis, de toute manière, quand on travaille le sol puis qu'on met du compost, on l'enfouit parce que la racine, la matière organique, elle est déjà dans le sol, là. Donc on la laisse, ça structure le sol, puis aussi ça évite l'érosion, ça tient le sol d'avoir des racines comme ça. Tu sais, avec le vent, surtout le vent, la pluie aussi, là, mais les racines qui restent en place, ben ils retiennent le sol.
Donc mon poids mange tout. Même chose, je le coupe à la base, je mange les pois, ce qui était dans les airs, je l'envoie dans le compost, mais les racines restent là, puis...
Non, même pas. Tu le laisses sur place, empaillé.
Ah oui, puis je vais semer au travers de tout ça.
Après, oui. Ouais.
En plein ça.
La majorité des agriculteurs vont laisser les résidus de culture au champ, Pierre-Luc. Une fois qu'ils ont sorti les brocolis, admettons, ben, le feuillage, la tige, les racines vont rester là, puis comme il expliquait tantôt, les maris, ben, ils ont un sol qui est en super santé, fait que les micro-organismes qui sont présents dans le sol, ils vont digérer ça dans le temps de le dire, puis l'année d'après, tu ne le reverras pas. Puis l'autre chose, c'est qu'ils ont une rotation de culture qui est assez élaborée, là, donc on ne revient pas tomate sur tomate sur tomate, ce qui minimise les chances de maladie, mettons, des racines de tomates.
Puis c'est sûr qu'un des défis aussi de notre technique, c'est... ben, c'est pas de notre technique, là, mais de notre travail du sol, c'est... d'essayer d'avoir assez de matière aussi pour faire les paillis là. Fait que c'est sûr que on disait que le sol il s'enrichit, mais on a quand même un apport externe à ce niveau-là parce qu'on produit pas tous nos paillis sur place. Fait que en récupérant les résidus de culture, ben ça donne une chance aussi là.
Moi, ça m'inspire beaucoup, ce concept-là que je devrais mettre en application, puis que peut-être je vais tester sur quelques planches avant de me lancer à la grandeur du jardin chez nous.
Ben ouais.
Mais le rotoculteur, il prend...
Tu vas y prendre goût.
Je veux l'essayer. Le rotoculteur, il prend la poussière maintenant depuis un an. Surtout après l'avoir prêté à mon ami Pierre-Luc, qui le virait à l'envers, puis que l'huile s'est ramassée partout dans le carburateur, le filtre à air, dans l'essence. J'ai réalisé que j'étais pas mécanicien là, d'emblée, puis que ces heures-là passaient à réparer le truc, ben tu sais, c'est des heures en moins au jardin. Fait que cette année... Il est resté rangé, mais la grelinette est jamais loin, le râteau non plus.
Il en
plus.
Parle à tous les épisodes en passant. Là,
hey, c'était mon précieux, cet outil-là. Mais à ce temps, je leur...
Bon, ben c'est un signe du destin.
Oui.
Je t'ai rendu service, voilà, merci.
Mais je leur vois, il est quasiment prêt à aller sur Marketplace, je pense. C'est...
Dépêche-toi. Ouais. Il va peut-être baisser de valeur.
T'es pas bon vendeur. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais dire, le PA, avec ça?
Rien. Je voulais juste renvoyer une pointe.
Tu voulais juste... C'était gratuit.
Non, mais je voulais dire, c'est vrai qu'au fil du temps, ton sol, il change, puis on l'apprécie, puis on le connaît mieux. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que, crime, cet outil-là, je le sortais comme de façon systématique, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais là, tu réalises qu'à cette étape-là, t'as peut-être pas nécessaire, puis c'est mieux, finalement, pour mille et une bonnes raisons. Autant la pollution atmosphérique que le travail comme tel, que la dépense énergétique en termes de dollars aussi à mettre de l'essence dedans. Puis qu'au final, ben, on sauve du temps, puis le sol est en meilleure santé, là.
Ben, je peux t'en nommer deux autres des bonnes raisons parmi les millions de bonnes raisons, là. Mais qui sont assez convaincantes que tu vas voir les avantages la première année, c'est que ça réduit énormément le désherbage parce que ça étouffe les herbes, tu sais, quasiment à manière d'une toile d'occultation, là. C'est quand on voit les paillis de plastique, là, ben un paillis végétal, c'est quand même moins efficace qu'un paillis plastique, mais quand même pas mal plus efficace qu'un sol à nu, tu sais. Fait que c'est sûr que tu sais le désherbage là, il est vraiment réduit beaucoup. Après on enlève toujours un peu les colonisatrices là qui s'infiltrent puis tu sais mais on perd pas le contrôle du désherbage comme tu sais mettons comme j'ai déjà vu des rangs de carottes que tu sais pas ce qu'il y a dedans tellement qu'il y a d'herbe.
Ouais.
ça existe plus tu sais fait que
c'est propre là chez vous quand même les jardins
ben il y a des herbes quand même tu sais puis on n'est pas stressé avec ça parce qu'on sait qu'ils savent qu'ils peuvent pas prendre le dessus.
Ah puis
fait que
ouais vas-y.
Non Marie tu t'en allais sur deux raisons vas-y.
Ben l'autre raison c'est l'arrosage. Tu sais, comme 1500 mètres carrés de jardin, tu peux pas arroser ça tous les jours, là. Fait que... Puis on n'a pas non plus l'équipement de goutte à goutte ou quoi. C'est quand même un investissement aussi, l'entretien, puis ça produit des déchets, etc. Fait que, nous autres, on arrose juste pas. C'est simple de même, tu sais.
Puis pour revenir sur les idées préconçues, souvent, les gens, ils pensent que pour faire des belles carottes, tu sais, de bon gabarit, ça prend justement un sol qui est bien travaillé en profondeur. On parle même des fois de passer une sous-soleuse dans le sol, mais crime, pour avoir vu les photos de carottes qui sortent du jardin... Chez vous, c'est pas le cas, là, finalement. Ils sont énormes. Là.
Ben, je te le dis, le microbiote, il labore vraiment mieux que nous.
Bon, voilà. C'est dit.
Oui, le fait de ne pas arroser, là, ça fait que ça oblige les racines à descendre en profondeur. Donc, les carottes, ils vont descendre aussi plus profond, puis ils vont être plus longues aussi à cause de ça. Parce que si tu arroses tout le temps en surface, ils vont développer leur système racinaire en surface. Donc, puis en plus, ils seront moins autonomes. Si à un moment donné, il y a une sécheresse puis que tu peux pas arroser, ben ils vont souffrir.
Mais
plus.
Est-ce que j'en comprends que vous désherbez à la main seulement? Si vous avez autant de paillis, est-ce que c'est parce que ça vous empêche-tu de passer la binette?
Ah non, on passe pas de binette, non. Depuis 2012, les binettes ont été oubliées dans la remise.
Mon Dieu Seigneur, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous êtes habillé quand vous faites ça?
Ça dépend.
Donc toujours à la main, là, c'est ce qu'on déteste, là, puis ce qu'on veut éviter avec le long manche. Vous penchez, puis vous faites ça tout à la main.
Ouais, mais il y en a, comme disait Marie, il n'y en a pas tant que ça, là. Puis souvent, ben...
C'est tous les woofers qui le font.
Puis les annuels, ben, par exemple, je sais pas, le chou gras, par exemple, ben, on va les couper plutôt que les arracher pour, comme je disais tout à l'heure, pour laisser les racines dans le sol, puis pas tirer tout le sol en même temps, là. Donc, ça dépend quelles herbes, là, mais...
Puis on les met directement en paillis.
Puis on
les
laisse là.
Tu casses ton plant, puis tu le laisses sur place. Fait que c'est pas si long de faire une planche.
Ouais, c'est énormément d'informations, puis de remises en question, finalement, à discuter avec vous deux. Plein de pratiques que moi et Pierre-Luc, on va remettre en doute, là. On pensait qu'on n'était pas pire.
Ben moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que... comment je peux dire ça? Moi, je suis pas un scientifique, puis je travaille tout croche, puis tout. Fait que j'ai souvent tendance à valoriser l'instinct, comme je le disais, tout ça. Mais c'est énormément de connaissances. Tu sais, Marité, tu viens d'en donner un excellent exemple. Tu faut que tu saches qu'est-ce qui est annuel, qu'est-ce qui est bisannuel. Ça va influencer la façon que tu désherbes telle ou telle mauvaise herbe, etc. Tu sais, fait que c'est quand même énormément de connaissances, là, même si c'est quelque chose qui est pas un retour en arrière, mais qui se rapproche de la tradition, tout ça. Fait que c'est pas à négliger. C'est quand même une job de scientifique, d'agronomie scientifique, même si c'est une façon comme plus traditionnelle là, de voir le jardinage.
Ouais, mais on finit par les connaître, les plantes, de toute manière. Même si tu les as pas étudiées, tu sais, tu finis par savoir comment elles poussent, puis comment... Si elle se ressème ou si ça vient d'une racine comme le chien dent, tu sais très bien que c'est une racine qui arrive là, puis que celle-là, faut que tu l'enlèves, là.
Il y a beaucoup d'instinct aussi là-dedans, d'instinct aussi d'aller chercher la connaissance. C'est rare que tu dis, bon, ben là, je vais faire un cours en autosuffisance, puis je vais tout aller chercher mes connaissances, tu sais. C'est vraiment pratique parce que c'est pratique dans le sens concret. C'est spécifique à chaque microclimat, à chaque jardin presque. T'sais. Fait que c'est en le faisant que tu vas apprendre. Puis là, selon tes besoins, tu vas chercher les connaissances que tu vas avoir besoin. Puis ça reste, c'est pas forçant. T'sais. C'est quand même instinctif de savoir pourquoi ma tomate a pas arrêté de pousser. Ah ben parce que elle, c'est une indéterminée. Ben là, tu viens d'apprendre ça, mais t'sais, c'est comme juste, t'es content d'apprendre ça. Ouais. Pour moi, c'est un peu instinctif aussi, ces connaissances, d'avoir envie de les
savoir. C'est par aussi observation, puis expérience, puis observation. Hein, tu sais, si t'enlèves, si tu coupes une herbe, puis qu'elle repousse, tu sais, ben là, tu te poses une question. Tu sais, tu me dis, bon, ben, soit je l'ai pas coupée assez proche de la terre, puis elle a refait des rejets, soit c'était une vivace, tu sais, pourquoi elle a pas repoussé, puis elle a repoussé, puis après, la fois d'après, ben, tu l'expérimentes autrement.
Ben, je pense que c'est la combinaison de tout ça, donc de l'instinct, de l'expérience, beaucoup d'observation, puis si on manque de connaissances, ben, on achète le livre, Le Jardin Vivrier.
Il y a pas tout dans le livre, hein, ça a l'air impressionnant, 400 pages, mais... T'sais, on est vraiment chanceux. Dans un sens, on est quand même... On parlait tantôt du lien qui a été rompu là avec la terre puis avec les traditions ancestrales. Puis c'est comme toutes des connaissances qu'on a pu puis qu'il faut qu'on réacquiert. Fait que là, là-dessus, on est malchanceux. Mais on a quand même Internet puis des groupes de jardinage sur Facebook. Il en pleut, là. Fait que tu poses ta question là sur n'importe quel groupe, tu vas avoir ta réponse dans 5 minutes par 120 personnes qui t'ont répondu.
T'sais. Ouais, mais ça se peut que t'aies 20 réponses aussi puis qu'il y en ait une seule de bonne là-dessus.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Tu as toutes les réponses différentes, tu fais ton idée. Tu te vas sur Google Scholar, tu checks un peu 2-3 études, qu'est-ce que ça dit, puis plein de les livres audio, les livres, les podcasts.
Voilà. Merci pour l'échange, là. Je pense que Pierre-Luc va amener à la conclusion parce que j'ai l'impression qu'il est en train de prendre un cours en ligne gratuitement en ce moment avec vous deux. moi aussi, d'ailleurs, je dois le confesser.
On peut, si vous voulez.
Mais est-ce qu'on peut aller plus loin avec vous, mesdames? Et puis là, je parle pas de vous trouver sur Tinder, là, je parle d'en apprendre davantage là, sur...
on a maintenant un site Internet. Puis, ben depuis l'apparition du livre, moi j'ai comme un peu comme le projet de continuer à partager les connaissances. Puis j'essaye de faire ça à temps plein le plus possible. Fait que on s'est fait un site internet, puis on offre plusieurs services en fait là. On fait un peu de la consultation à des gens qui s'installent en autosuffisance ou qui veulent juste demander notre opinion, notre avis ou nos connaissances. Fait que on a suivi plusieurs clients cet été là. C'était vraiment vraiment le fun. Après ça, on fait des formations. Actuellement, on en fait une par saison. Ça, c'est encore des formations live là. On n'a pas encore de matériel préenregistré. Fait que ça, tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Vous allez tout voir nos activités là. On annonce à chaque fois. Il y a la formation d'automne qui s'en vient. Puis là, c'est ça, on s'enligne vers une formation, un cours en ligne, là, avec des vidéos préenregistrées. C'est ça, on fait aussi des visites du jardin, surtout ben, l'été, évidemment.
Puis si les gens veulent vous trouver sur les réseaux sociaux ou le site web, ça s'appelle lejardinvivrier.com?
Ouais, on a pris le même titre que le livre, là. Ouais. Jardinvivrier.com ou sinon Instagram, Facebook, c'est lejardinvivrier.
Merci beaucoup, Marité, Marité Vard, de votre partage. C'est super généreux. Puis, comme je le disais en introduction, cet épisode-là, c'est le seul épisode payant d'Une chance qu'on s'aime. Parce que c'est sûr, ça coûte 40$ pour aller acheter le livre, mais je pense que ça, c'est un méga investissement parce qu'il y a 40 000$ de légumes qui va sortir de là en 2 ans. Merci énormément de votre gentille participation. Puis, bon succès là, avec votre beau jardin.
Merci beaucoup. Merci de votre gentille invitation.
Oh, qu'on s'aime. Une chance qu'on
s'aime. Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.